Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour cette dernière avant la pause estivale, je serai avec Erika. Bonsoir Erika.
Bonsoir Valérie.
Et bien sûr, bonsoir à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Vous allez bien tous les deux ?
Très bien.
Dans cette émission, nous accueillerons Catherine de la délégation départementale Action contre la faim du Maine-et-Loire. Nous aurons également deux belles chroniques. Nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par ton édito, Erika.
Hier, je cherchais le sujet de l'édito de ce soir et j'ai longtemps cherché. Pour qu'on ne parle pas encore de Gaza. J'ai demandé l'avis d'un proche et voici ce qu'il m'a répondu. Ce n'est pas plus d'actualité que la semaine dernière et ça ne sera pas plus d'actualité la semaine prochaine. Et c'est là le problème.
Que veux-tu dire par là ?
Il en faudra combien des éditos comme celui-là ? Il y en a eu combien déjà ? Dans les journaux, sur les ondes, sur les réseaux sociaux ? On a l'impression de parler dans le vide. Ce n'est pas juste, et je mets des guillemets, ce n'est pas juste un conflit, c'est un génocide. Amnesty International l'a prouvé dans un rapport très complet. Publié en décembre 2024, plus de 200 témoignages, des images satellites, des preuves qui montrent une réalité terrible. Israël commet un génocide à Gaza et bafoue le droit international aussi en Cisjordanie. Son gouvernement et son armée tuent des civils en détruisant les conditions de vie, en bloquant l'aide humanitaire, en bombardant sans relâche, tout ça avec l'intention de détruire en tout ou partie le peuple palestinien. Et s'il faut le dire encore des millions, des milliards de fois, nous le dirons.
Mais le mot génocide, ça change tout, non ?
Oui, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un conflit. C'est une politique systématique. Depuis octobre dernier, plus de 35 000 Palestiniens ont été tués. La moitié sont des civils, dont plus de 15 000 enfants. Les bombardements frappent les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Quand elle arrive, la famine, la souffrance s'aggrave. Mais non, visiblement, nommer un génocide, ça ne change pas tout puisque ça continue.
Et la France, l'Europe dans tout ça ?
Ça bouge un peu ces dernières semaines. Le Conseil de l'Europe alerte sur un risque de génocide. Une déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni et du Canada semble aller dans le bon sens. Ces pays enjoignent enfin Israël de cesser ses attaques et de permettre l'arrivée suffisamment conséquente de l'aide humanitaire. Je les cite. « Nous condamnons le langage odieux utilisé récemment par des membres du gouvernement israélien et la menace agitée d'un déplacement forcé des civils confrontés à la destruction désespérante de Gaza. » Le déplacement forcé permanent est une violation du droit international humanitaire. Israël a subi un attentat atroce le 7 octobre. Nous avons toujours soutenu le droit d'Israël à défendre les Israéliens contre le terrorisme, mais cette escalade est totalement disproportionnée.
Pourtant, depuis des mois, ce sujet est sensible, que ce soit en France ou dans d'autres pays.
Oui, rappelons que dénoncer ce génocide, ce n'est pas être antisémite. Il faut arrêter avec ça. Au même titre qu'être israélien, ce n'est pas être d'extrême droite. Être juif, ce n'est pas non plus être israélien et vice-versa. Être palestinien, ce n'est pas être du Hamas. Ce sont des choses différentes. Les mots ont un sens. Ces amalgames servent seulement à faire taire ceux qui demandent justice et paix. On doit pouvoir parler, dénoncer, sans être accusé à tort.
Et c'est ce qu'a fait Amnesty International le lundi 19 mai dernier à Angers.
Oui, nous avons diffusé le film « Un médecin pour la paix » au cinéma Les 400 coups. Nous avons quasiment fait salle comble. C'est l'histoire du docteur Izzeldin Aboulaech, médecin palestinien. Trois de ses filles ont été tuées dans un bombardement visant son immeuble. Depuis, il demande en vain des excuses au gouvernement israélien et pourtant, il continue de militer pour la paix. Ce film montre qu'il y a derrière les chiffres des vies, des familles, des espoirs. Triste actualité, quelques jours plus tard, le vendredi 23 mai, à peine quelques jours après la diffusion de ce film bouleversant et porteur d'espoir, un bombardement israélien a tué 9 des 10 enfants d'un couple de médecins de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Alors qu'elle assurait sa garde à l'hôpital Al-Nasser, dans la même localité, Ala Al-Najjar a vu arriver les secours transportant le corps de ses enfants. Les corps, pardon.
Un dernier mot peut-être ?
J'ai pensé hier, ça ne changera rien ton édito sur Gaza. Mais se taire, c'est accepter l'inacceptable. La vie d'un Palestinien vaut la nôtre. La justice, ce n'est pas une question d'actualité, mais d'humanité. Alors parlons, dénonçons, agissons. Un million, un milliard de fois, ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais trop.
Merci Erika. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Catherine. Donc Catherine qui représente Action contre la faim Maine-et-Loire. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bonjour à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Action contre la faim est une ONG qui a plus de 40 ans et qui intervient dans plus de 56 pays dans le monde. Car aujourd'hui, 733 millions de personnes souffrent de la faim actuellement. Une personne sur deux n'a pas accès à des toilettes et une personne sur trois n'a pas accès à de l'eau potable. Nous intervenons donc dans beaucoup de pays, dont Gaza, et nous faisons le nécessaire, si possible, pour que 26 millions de personnes aient une vie sauvée ou améliorée grâce à des programmes d'urgence ou de développement durable. Nous intervenons dans les domaines de la santé et la nutrition, car les personnes les plus fragiles et qui sont en souffrance aiguë de sous-nutrition, ce sont surtout les enfants de moins de 5 ans, les femmes allaitantes et les personnes âgées. Nous assurons aussi, si possible, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence en soutenant la production agricole, en faisant de la distribution alimentaire ou de semences ou des transferts monétaires pour garantir l'accès à une alimentation durable. Nous intervenons aussi dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, car un problème d'eau non potable a des conséquences très graves sur la santé, notamment des nourrissons. Nous intervenons aussi en santé mentale et soutien psychosocial, parce que vous comprendrez bien que des gens qui viennent de vivre un drame, un bombardement, un séisme, une inondation majeure, sont complètement perdus au niveau de leur schéma mental. Et ils ont besoin de groupes de parole pour pouvoir avoir une résilience et une capacité à se reconstruire. Et puis, il y a aussi le domaine du plaidoyer, la sensibilisation en général.
Et dans le Maine-et-Loire, vous existez depuis combien de temps ? Quelles sont vos missions principalement ?
Alors, la délégation départementale de Maine-et-Loire est d'une des 32 délégations qui existent en France, parce qu'il y a le siège Action contre la faim France qui se situe à Montreuil, dans le 93. Mais il y a 32 délégations. En Pays de la Loire, nous sommes deux, celle de Loire-Atlantique et celle de Maine-et-Loire. Donc, une délégation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est représenter Action contre la faim dans les territoires, dans les départements. Et donc, moi, je suis déléguée depuis 2020 et nous sommes une dizaine de bénévoles qui intervenons sur le département.
Alors, la liste des missions que vous avez données est absolument impressionnante. Comment est-ce qu'une dizaine de bénévoles dont vous faites partie, comment vous vous emparez de ces missions et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local ?
Alors, nous, on a deux missions principales. Il y a la mission de sensibilisation du grand public au problème de la faim. Et on a aussi comme mission de monter des projets pour pouvoir avoir une collecte de fonds. Car il y a des causes oubliées et elles sont très peu financées par les grands bailleurs institutionnels. Donc, monter des projets de collecte permet de récolter des fonds pour Action contre la faim, pour des missions comme, par exemple, l'Ukraine, qui commence à être une crise oubliée, pour le Yémen, qui a une crise oubliée, et tant d'autres.
D'accord. Donc, par exemple, dans le Maine-et-Loire, ces actions... Alors, moi, je me souviens, puisque certains de mes élèves ont fait une course contre la faim. C'était il y a quand même quelques années, dans un collège. Donc, ça peut être cette sensibilisation au niveau des collèges, c'est ça ?
Tout à fait.
Au niveau des écoles ?
Tout à fait. Ça fait partie d'une de nos missions. On intervient dans les collèges, lycées, primaires, même maternelles, pour des sensibilisations au problème de la faim. Alors, chaque année, la sensibilisation change. On met un pays en avant. Cette année, le pays mis en avant, c'était Madagascar, qui est aussi une cause oubliée. C'est un des pays les plus pauvres du monde et ils souffrent terriblement du dérèglement climatique. Ils ont des vagues de sécheresse épouvantables. Donc ça, c'est la sensibilisation dans les collèges, lycées. On fait aussi de la sensibilisation lors des grandes journées institutionnelles comme la Journée mondiale de l'eau qui se situe en mars et la Journée mondiale de l'alimentation en octobre. Donc là, on a des outils qui sont très bien faits. Ça peut être sous forme de jeu. On a un jeu qui s'appelle Légumes Express, qui fait prendre conscience aux consommateurs de la distance parcourue par le légume ou le fruit qu'il a acheté dans son panier entre le lieu de production et le lieu de consommation en France. Donc ça, c'est sous forme ludique. On a aussi un jeu qui s'appelle Chrono pour que le consommateur prenne conscience de sa consommation d'eau dans sa vie quotidienne, dans les achats du quotidien. Entre changer de jean, acheter un kilo de bananes, prendre une douche au lieu d'un bain. Enfin voilà, plein de choses qui sont très faciles à symboliser. On a un jeu genre timeline, ou un jeu de cartes qu'on utilise.
D'accord. Et donc là, vous nous avez parlé de certaines actions. Est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles vous voulez mettre la lumière, notamment pour les projets à venir ?
Voilà, un projet à venir, un gros projet à venir, c'est une première pour nous. On organise une randonnée solidaire le 15 juin, donc dans presque 2 semaines, sur la ville des Ponts-de-Cé, sur la commune des Ponts-de-Cé. C'est une randonnée solidaire avec 3 parcours différents, un de 5, un de 9,5 et un de 12,5 km. C'est un événement simple. On n'a pas voulu faire quelque chose de très compliqué pour une première, donc on n'a pas prévu de système de restauration. On invite les marcheurs à apporter leur pique-nique.
Donc, c'est à quelle heure ?
Alors, ça commence à 8h jusqu'à 12h pour s'inscrire. C'est au stade des Ponts-de-Cé, Frédéric Bernard, rue Gallieni, avenue Gallieni. Donc, on s'inscrit soit directement, soit sur la page Hello Asso. Vous pourrez trouver la page Hello Asso dans la presse locale ou sur la page Facebook Action contre la faim Maine-et-Loire ou sur Instagram ACF-du-8 Maine-et-Loire. Voilà, donc des petites informations. On a un grand soutien de la ville des Ponts-de-Cé. On a un grand soutien d'une association locale de randonnée qui nous a aidés à faire les repérages, faire les balisages. On a aussi un grand soutien des commerces locaux qu'on a sollicités parce qu'il fallait qu'on soit cohérent. La ville des Ponts-de-Cé nous aide, mais on fait aussi participer la vie locale.
Oui, et alors plein de soutien, financier peut-être en particulier, mais je crois qu'il faut aussi des bénévoles.
Ah oui.
Est-ce que vous allez être assez nombreux pour l'encadrement, l'organisation, la préparation ?
Ah, et on travaille bien depuis plusieurs mois, donc nous sommes 10. Bon, il y a des responsables du partenariat avec les commerçants. On a une spécialisée plus dans la communication.
Bien sûr.
Il y a aussi tous les bénévoles qui distribuent des flyers dans les commerces, dans les salles de sport, dans toutes leurs associations auxquelles ils participent. On a aussi le soutien du club de rando qui va nous aider à baliser le samedi après-midi. Voilà, on a du soutien. Donc, nous sommes 10 qui seront présents le jour J et la veille. Et puis, 5-6 bénévoles de l'association de rando.
Très bien. Mais je suppose que l'inscription va servir au soutien financier pour le projet à Madagascar en particulier.
Alors, l'intégralité des recettes de ce jour-là ira à Action contre la faim. Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours besoin d'argent.
L'intégralité.
L'intégralité.
Bah, bravo à vous.
Et justement, comment fait-on pour vous contacter en général, pas seulement pour cet événement ?
Alors, il y a le site Action contre la faim France, www.actioncontrelafaim.org. Il y a l'adresse mail de la délégation, maine-et-loire@actioncontrelafaim.org. Vous pouvez nous envoyer un mail si vous avez envie de monter un projet avec nous, si vous êtes étudiant. On soutient beaucoup de projets étudiants. On a fait un soutien à un trek solidaire là, qui a eu lieu en mai avec les étudiants d'Agrocampus Angers. Ils ont fait un trek sur 2 jours avec un bivouac et ils ont collecté plus de 3300 euros.
Formidable.
Voilà. On aime bien travailler avec les étudiants parce que les étudiants sont l'avenir et
puis ils ont des idées aussi un petit peu différentes. Pareil, notre antenne jeune, nous, cette année, a eu des idées remarquables, exceptionnelles.
Et ils savent très bien s'organiser. Ils sont très pointus sur la com, sur les recherches de partenaires. Bon, on les a aidés, bien sûr, mais ils sont très autonomes. On a eu aussi 2 pas dans la lumière qui étaient par des étudiants de l'UCO autour de la solidarité. Super événement. Il y a aussi les EO qui a fait un marché de Noël. Voilà, on cherche vraiment le partenariat avec les étudiants.
Eh bien, j'espère qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve après une pause musicale.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Vous venez d'écouter Clandestino de Manu Chao, un artiste sincère et talentueux. Allez, de retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, c'est bientôt l'heure des actualités. Mais avant, on va découvrir la chronique de l'antenne jeune angevine d'Amnesty, écrite ce mois-ci par Grégoire. C'est un message plein d'espoir.
Lundi dernier, je reçois un mail. Serait-il possible d'avoir une chronique jeune ? Le défi me plaît, mais de quoi pourrais-je parler ? De Gaza, toujours ? De Trump, encore ? Non. Pour un dernier épisode, je voulais allumer une lueur d'espoir. Parce que oui, il en reste de l'espoir. Tout d'abord, en un mois, trois pays ont dit non. Non au néofascisme, non à l'ingérence. Alors que les réactionnaires pro-Trump étaient donnés gagnants, au Canada et en Australie, les citoyennes et citoyens ont offert la victoire au camp de la liberté, au camp des droits humains, au camp du rejet de l'impérialisme. L'autre victoire nous est venue de Roumanie, étalé de pair avec le triomphe de la vérité. Rappelez-vous, fin 2024, la victoire au premier tour du candidat pro-russe Georgescu, soutenu par une aide financière et une propagande médiatique du Kremlin, a été invalidée par la Cour suprême roumaine. Résultat, il y a deux semaines, le candidat indépendant et pro-européen, Nicu Zordan, a été élu légitimement président. Bonne nouvelle, celui qui qualifiait les LGBT d'attaque contre les valeurs traditionnelles, déclare aujourd'hui avoir évolué sur ses positions, ouvrant la voie à de nouveaux droits. Nos espoirs se portent désormais sur la Pologne. Fin 2023, le Parlement polonais était repassé aux mains d'un gouvernement libéral, qui a permis l'acquisition de nouveaux droits. Meilleur accès à la contraception, suppression des zones sans LGBT, et surtout, réforme de la justice pour favoriser l'état de droit. Demain, les derniers blocages par veto de l'actuel président pourrait prendre fin si le candidat de la coalition progressiste, donné favori par les sondages pour le second tour, remporte le scrutin. Pendant ce temps, les démocraties endormies face aux oppresseurs se réveillent enfin de leur silence coupable. Pour exemple, l'Angleterre et la France se sont récemment positionnés contre le gouvernement de Netanyahou, en suspendant les négociations commerciales pour la première et en considérant la reconnaissance d'un État palestinien comme un devoir moral pour la seconde. Enfin, là où l'ombre de l'obscurantisme menace, des résistances émergent pour faire briller l'espoir de nouveau. Ainsi, ce mercredi, la Cour de commerce internationale des États-Unis a opposé l'inconstitutionnalité aux droits de douane imposés par Donald Trump sur plusieurs importations étrangères. Une décision symbolique qui rappelle que la justice est l'ultime rempart face à l'abus de pouvoir. Tout cela pour dire que partout où la justice triomphe, l'espoir ne meurt jamais. Et que tant que nous nous battrons ensemble, nous gagnerons ensemble.
Et c'est l'heure maintenant des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Deux défenseurs des droits humains ont été gravement malmenés en Tanzanie, Agather Atuher, originaire d'Ouganda, et Boniface Mwangi, de nationalité kényane, étaient arrivés en Tanzanie le 18 mai dernier dans le cadre de l'observation du procès d'un opposant au régime. Après avoir été arrêtés à leur hôtel, les deux militants ont été conduits dans un lieu inconnu où ils ont été placés en détention au secret, puis roués de coups, torturés et déshabillés. Heureusement, suite à des pressions exercées par le Kenya et l'Ouganda, les deux militants ont été libérés et expulsés. Nous rappelons que l'observation des procès est essentielle à la transparence des procédures judiciaires et aux garanties de procès équitables et ne constitue pas une menace pour la sécurité.
En Géorgie, la police a de plus en plus souvent recours à des violences liées au genre, telles que des insultes sexistes, des menaces de violences sexuelles et des fouilles au corps, illégales et dégradantes contre les femmes qui participent à des manifestations. Ainsi, Hélène Costaria, une dirigeante de l'opposition, a raconté avoir été maîtrisée avec brutalité par des policières, déshabillée, forcée à s'allonger nue par terre lors de son arrestation le 28 mars dernier. Malgré ses problèmes de santé, les agentes ont refusé de la laisser accéder à des médicaments et à des toilettes après qu'elle ait eu une crise d'hypertension et prise de vomissements.
La suspension brutale, incohérente et de grande ampleur par l'administration Trump de l'aide internationale prodiguée par les États-Unis met en péril des millions de vies et les droits fondamentaux dans le monde entier. Ainsi, dans divers pays, de nombreux services de santé vitaux ont été interrompus ou fermés. Par exemple, en Afrique du Sud, où sévit l'épidémie de VIH, la plus grave au monde, le financement de la prévention du VIH et de services de proximité pour les orphelins et les mineurs vulnérables, y compris des jeunes victimes de viol, a été supprimé, privant ainsi les personnes concernées de soins.
Et ce n'est qu'un seul exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres. En République démocratique du Congo, le mouvement du 23 mars, qu'on appelle M23, soutenu par le Rwanda, tue, torture et fait disparaître de force des civils. Il en prend même certains en otage contre rançon et les soumet à des conditions inhumaines dans des lieux de détention dans l'est du pays. Les Congolais ne connaissent que trop bien la cruauté du M23. Ils continuent de vivre dans la misère car les acteurs internationaux se montrent complaisants mais attendent patiemment un accord de paix. Le M23 doit libérer immédiatement tous ces civils et mettre fin à ces pratiques illégales et cruelles.
La Commission européenne veut modifier le concept de pays tiers sûr, en autorisant les États membres de l'Union européenne à envoyer de force des personnes en demande d'asile vers des pays avec lesquels elles n'ont aucun lien, sans possibilité de recours. Cette proposition est une nouvelle tentative cynique de l'UE pour échapper à ses responsabilités en matière de protection des réfugiés, en les reportant sur des pays ayant moins de ressources et de capacités pour offrir une protection durable. Envoyer des personnes dans des pays où elles n'ont aucun lien, ni soutien, ni perspective, ou par lesquelles elles ont seulement transité brièvement, est non seulement chaotique et arbitraire, mais également catastrophique sur le plan humain.
Alors sur le même thème des migrants, cette fois en France, eh bien c'est une bonne nouvelle avec la décision rendue le 23 mai dernier par le Conseil constitutionnel qui déclare contraire à la Constitution certaines dispositions de la loi Darmanin. Ces dispositions permettaient ou permettraient le placement en rétention administrative de demandeurs ou demandeuses d'asile, alors même qu'aucune procédure d'expulsion n'est engagée à leur encontre, soit en raison d'une prétendue menace pour l'ordre public, soit au motif d'un soi-disant risque de fuite. C'est une victoire importante pour les libertés fondamentales et notamment pour la protection de la liberté individuelle. Il n'est pas acceptable dans un état de droit comme la France de priver de liberté une personne en quête d'une protection sur le fondement aussi vague et arbitraire qu'une menace pour l'ordre public.
La Roumanie a tenu tête à la vague d'extrême droite qui balaie le continent en votant pour l'Europe lors d'un scrutin présidentiel historique. Les Roumains ont préféré le maire de Bucarest, Nicuzor Dan, au populiste pro-Trump George Simion. Le dimanche 1er juin, c'est au tour des Polonais d'élire leur président, avec au second tour le choix entre le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le nationaliste Karol Narowski, soutenu par le parti d'opposition nationaliste Droit et Justice. Les résultats sont tombés, c'est le candidat nationaliste qui gagne de justesse. On ne peut que craindre pour le respect des droits humains en Pologne, en particulier pour ceux des nombreux réfugiés ukrainiens vivant dans le pays.
Il y en a des milliers hein, de réfugiés oui. ukrainiens. Allez, écoutons maintenant la dernière chronique de Céline pour la saison.
Bonsoir Valérie. Voilà une année de plus à raconter les histoires de ceux qui sont dans la rue. Les anecdotes, les rencontres, les parcours de vie. Quelquefois ce que les jokers ont envie de partager, et c'est cela que je voudrais partager, les expériences de ceux qui ouvrent leurs portes. Leurs émotions, leurs sentiments, leur colère, mais aussi une certaine forme de désespoir. Et je voudrais te livrer un témoignage d'une personne qui a accueilli 3 fois. Bonjour. Mon week-end ne sera certainement pas ensoleillé. Vraiment désolée. J'ai besoin d'une pause et arriver à maîtriser mes émotions après avoir passé un week-end avec les personnes que j'ai reçues et qui ne se finalisent que par 3 accueils. Ce que l'on vit en un week-end est indéfinissable et puissant de joie, de bonne humeur, de force de vivre et d'énergie. Je vis atrocement le dépôt de ces êtres devant le hangar derrière ce grand centre commercial que je déteste le lundi matin et pleure en me rendant au travail sur lequel je n'arrive pas à me concentrer de suite. L'après-accueil est difficile. Il faut être bien armé et mes 3 rencontres ont été pour moi un vrai traumatisme du fait de les laisser après le temps d'un week-end riche de culture et de partage. Pourtant, je sais que je dois le faire. Accueillir ponctuellement et tout simplement sans émotion. Je ne sais pourtant pas le faire. Je n'arrive pas à oublier leurs odeurs, leurs paroles, leur humanité, leur tout en fait. J'y travaille et espère de nouveau répondre positivement aux sollicitations de SOS Migrants. Voilà, j'avais besoin de le dire. Et pourtant, tu le sais, comme moi. Elles sont si précieuses ces nuits qui leur permettent de se sentir en sécurité, de se reposer enfin, de retrouver le quotidien digne qui permet d'être quelqu'un. Et tout cela, c'est possible grâce à la générosité des jokers.
Merci Céline pour cette dernière chronique et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
On commence avec le samedi 14 juin, marché féministe et fête paysanne tout l'après-midi et en soirée dans le village de Bellevigne-en-Layon.
Et bien sûr, le 15 juin, vous avez entendu Catherine tout à l'heure, c'est la randonnée solidaire organisée par Action contre la faim 49 dans la jolie ville des Ponts-de-Cé.
Cinédoc le lundi 16 juin à 20h avec Soudan, Souviens-toi, un film qui fait le portrait d'une jeunesse soudanaise qui, après 30 ans de dictature, défie la répression militaire et lutte pour ses rêves de démocratie grâce à ses mots, poèmes et créations. C'est une soirée organisée par la LDH 49.
Le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Eh bien, à Angers, ça se passera place Molière, tout en bas de la rue Plantagenêt, de 17h à 19h30. Vous y entendrez des témoignages, des prises de parole, mais également de la musique. On en sera, Erika, on chantera, je crois.
Et n'oubliez pas, chaque premier samedi du mois, on se retrouve pour demander le cessez-le-feu à Gaza, place du ralliement.
Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Catherine pour sa venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter l'émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt, après les vacances d'été, sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
Bonne soirée.